sur la
radio du
Chemin Rouge.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la web radio du Chemin Rouge. Nous sommes le 12 mars 2026 et on espère que vous avez la pêche par ce beau soleil.
Alors, dans le cadre du mois de la lutte contre la discrimination, au centre social en avril et avec la ville de Fastuménil, nous proposons ce podcast pour découvrir les actions qui seront mises en place ou qui sont déjà mises en place et d'échanger sur ce sujet.
Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Pozziadlo-Régnier qui nous fait l'honneur, comme chaque année, de venir derrière les micros de la web radio. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Volontiers, oui. Donc, comme vous l'avez dit, Fabien Pozziadlo-Régnier, je suis adjoint au logement et aux solidarités de notre bonne ville de Fastuménil depuis 2020.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est partie les actions qui se sont passées sur la ville de Fastuménil pour lutter justement contre la discrimination ? Qui se présente devant de nombreuses personnes dans notre société.
Alors, je vais essayer de schématiser parce que chronologiquement, la liste pourrait être très très longue, mais je dirais qu'on a essayé de raisonner dans la mise en place de grands plans d'action quand on est arrivé en 2020. Plan d'action sur le plan climatique, transition écologique. Plan d'action sur le plan de la solidarité, plan d'action sur le plan urbanistique, etc. Avec une espèce de fil rouge qui est l'idée de faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, que on puisse traiter l'ensemble des situations de précarité particulière ou des situations de discrimination le plus largement possible. Et ça a donné naissance à un certain nombre de plans qui ont été votés en conseil municipal, dont le plan Fastuménil Ville Solidaire, qui regroupe, lui, l'ensemble des mesures de lutte contre les discriminations et tout un ensemble de mesures de lutte aussi contre les inégalités, notamment par rapport au logement. Puisque, comme je vous l'ai dit, ma délégation, c'est logement et solidarité. Il y a autant d'inégalités dans le logement qu'il peut y en avoir en fait, dans la vie quotidienne, hein, dans le vivre ensemble. Donc dans ce plan, il y avait deux grandes parties, le logement et le volet social, sociétal. Et c'est donc dans le cadre de ce volet sociétal qu'ont été déclinés tout un ensemble de mesures de lutte contre toutes formes de discrimination. Voilà.
Il y a de plus en plus d'événements qui se répètent comme les fiertés. Est-il possible d'expliquer ce qui est fait au travers de cette thématique ?
Oui. Alors, les fiertés, en fait, se répètent, en tout cas sont plus visibles aujourd'hui que les autres plans, parce que c'est le premier plan de solidarité mis en place. C'est-à-dire que c'est la première action dans ce sens, la première grande cause municipale qui a été mise en place donc en 2021. On est donc à la 5e édition cette année, donc c'est un peu rodé maintenant, rodé dans le choix des thèmes, rodé dans le travail avec les partenaires, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc cette thématique-là, elle est bien développée, bien assise. Alors qu'est-ce qu'on y traite ? On y traite en fait... Je dirais que l'objectif, c'est, d'ailleurs comme pour toutes les autres causes, hein, l'objectif c'est d'avoir une action collective portée par la ville, mais collective, avec un ensemble d'acteurs locaux, pour aller vers du mieux vivre ensemble, quelle que soit la forme que l'on emploie. C'est-à-dire lutter contre des inégalités, des précarités, lutter pour plus de visibilité des situations difficiles. Ça, c'est encore une fois, c'est le mot d'ordre pour l'ensemble des causes que l'on a définies, voilà. Et effectivement, les fiertés sont un peu plus abouties. Je pense que je vous le détaillerai tout à l'heure.
Donc, au niveau des fiertés, ou même la lutte contre la discrimination. Votre logo, c'est surtout en particulier, on remarque le drapeau arc-en-ciel. Enfin, il y a quelques années, au début de la municipalité de votre candidature, c'est ce que moi j'ai remarqué, affiché sur la mairie, dans certaines rues. Mmh. Mmh. Et pourquoi spécialement ce drapeau ?
Alors, c'est un drapeau qui a été dont s'est emparée la communauté LGBT. Comme la ville a été déclarée ville non discriminante dès le début du mandat, ça a été effectivement mis en avant parce que c'est un message dont on veut, au niveau du conseil municipal, rester fier parce que c'est une belle cause, une belle lutte, et aussi parce qu'on a eu des remarques et des questions plus ou moins gentilles de la part de certains habitants. Certains qui ont pensé que c'était une forme de prosélytisme. Non, c'est afficher clairement une volonté de lutter contre les discriminations. Et ce drapeau n'est pas que le drapeau LGBT. C'est le drapeau de la paix. Voilà. Et ça, c'est le sens de notre action. C'est faire en sorte que dans tous nos actes, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une paix sociale. Et une égalité sociale.
On peut donc voir sur le site qu'il y a eu les fiertés, la lutte contre la grossophobie, la sensibilisation à la santé mentale. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été mis en avant dernièrement ?
Oui, alors vous avez cité dans l'ordre les causes municipales qui ont été mises en place. Les fiertés, la première. La lutte contre la grossophobie, la deuxième. La sensibilité mentale, troisième. Mmh. D'ailleurs, à partir de la lutte contre la sensibilisation à la santé mentale, on est passé à un autre système de décision de la cause municipale. On a soumis au conseil citoyen le choix de la cause municipale. Parce qu'on s'est dit, comme on essaye toujours dans nos causes, de faire en sorte que ce soit qu'on embarque le plus de monde possible, y compris les habitants, et je dirais même en premier les habitants, puisque toutes nos actions sont censées être à destination des habitants. Donc on s'est dit, plutôt que de décider finalement entre nous, ouvrons le choix et passons par notre organe d'expression citoyenne locale qui est qui sont les conseils de citoyens. Et donc on a soumis au vote de l'Assemblée générale des conseils de citoyens le choix des causes municipales. Et ça a donné donc pour la troisième cause la santé mentale. La quatrième cause était celle de 2025 et c'était celle de la lutte contre les incivilités et le bien vivre ensemble. Hein, je sais pas si vous avez vu la campagne d'affichage qu'il y a eu dans les rues avec je jette pas mes mégots. Donc à cette occasion on a repeuplé un peu la commune de cendriers pédagogiques. On a fait des affiches pour inciter les propriétaires de chiens à respecter un peu les chaussures de leurs voisins, etc. Voilà, donc ça aussi ça a été choisi par les habitants. Et la cause 2026 n'est pas encore déterminée, puisqu'on est assez tôt dans l'année et que, comme vous le savez, il y a des échéances municipales qui contrarient un peu le calendrier.
Par rapport à la santé mentale, quelles ont été vos actions préventives ?
Alors,
ou d'intégration ?
Alors, le propos, c'est de mettre en lumière ceux qui savent. Et donc de faire en sorte que s'il y a des acteurs de terrain, il soit un peu mieux connu. Et s'il y a des associations, etc., de l'extérieur qui travaillent dessus, qui nous proposent donc des choses. Donc, on a travaillé avec l'AI2SMC, l'Association Intercommunale de Santé Mentale. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, c'est quelque chose dont on est partenaire depuis de nombreuses années et qui travaille effectivement à... je dirais la vulgarisation du sujet santé mentale. Quand je dis vulgarisation, ça veut dire faire en sorte que les gens ne se disent pas « Ah oui, mais la santé mentale, c'est les gens qui s'en foutent. » L'idée, c'est de dire la santé mentale et les, les problèmes de santé mentale, qu'ils soient temporaires ou durables, ça peut toucher tout le monde, n'importe quand. Ça peut toucher, et principalement en ce moment, c'est le sujet qui inquiète, en tout cas c'est l'axe qu'on avait choisi en 2025, les jeunes, les fragilités des adolescents, leurs craintes par rapport à l'avenir, leur fragilité par rapport au réseau, leur exposition par rapport au risque de suicide, etc. etc. Donc on a fait intervenir nos partenaires, dont la I2SMC, dans nos structures locales, donc notamment le CCAS, hein, qui, alors je ne l'ai pas précisé au départ, mais pour toutes ces actions de solidarité, le porteur, c'est évidemment le CCAS, qui est ce vecteur justement de solidarité. Donc on a fait des actions au CCAS et on a fait aussi des actions en lien avec nos collèges, et ce qui est aussi le cas pour d'autres actions comme les fiertés par exemple, ou la lutte contre la grossophobie, parce que parfois les jeunes ne sont pas toujours très tendres.
De le fait que la santé mentale a été un sujet mis à l'honneur, mis en lumière, voilà, chercher le terme, par l'État, puisque ouais, c'était l'année. Est-ce que ça vous a aidé ou pas?
Très honnêtement, pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que bon, l'État, il a sa propre politique de communication, ses propres choix. Nous, on essaye... Alors, on va dire que c'était un pur hasard, hein, d'ailleurs. On avait fait ce choix avant de découvrir que c'était l'année de la santé mentale. Nous, on essaye vraiment de faire en sorte que notre sujet reste très local, avec des acteurs locaux et des répercussions locales. Donc, bah, parfois, il y a des choses qui coexistent. Si on peut faire sans et produire quelque chose qui soit à destination de nos habitants et qui les touche au plus proche, on fait. Donc ça n'a pas beaucoup aidé, ni financièrement, dans la mise à disposition d'acteurs plus nationaux.
Au niveau local, vous parlez des acteurs qui sont sur le terrain de face féminine, mais par exemple, ici, il y a Rochin, il y a Lille,
Fache.
Est-ce que vous travaillez aussi avec les communes qui sont à proximité, ou c'est difficile ou...
Alors, ça peut arriver. Concrètement, on a parfois des programmes intercommunaux. Là, pour le coup, comme on parle des causes municipales, on va plutôt être sur des choses qui sont très, très propres à nous. Mmh. Cependant, si on parle des fiertés, on a depuis l'année dernière commencé à travailler avec la ville de Ronchin sur des choses communes. Donc, le principal événement commun, ce sera la marche de la journée du 25 avril. Mais on va essayer de mutualiser un peu des choses. Il y a des collectifs qui nous proposent des choses qui parfois ne peuvent pas être un one-shot, c'est-à-dire un seul événement, parce que structurellement c'est trop lourd à mettre en place ou trop coûteux. Et là, on peut avoir des réflexions intercommunales pour mutualiser les coûts, pour réduire un petit peu la facture et faire en sorte que les partenaires qui nous proposent quelque chose s'y retrouvent et puissent nous proposer une palette d'événements un petit peu plus large.
Malgré les prochaines élections municipales à venir, y a-t-il des dates qui ont déjà été fixées pour les prochaines semaines? Vous venez de préciser la date retenue pour la marche des fiertés au 25 avril 2026, c'est bien ça? C'est arrêté malgré les élections?
Oui.
Qui arrive?
Alors, le seul programme qui est la seule cause municipale qui est bouclée, c'est justement les fiertés, parce que c'est celle qui arrive le plus tôt dans le calendrier, tout simplement, parce qu'on essaye de la faire un petit peu en amont du calendrier national, du mois des fiertés nationales, hein, qui traditionnellement commence au 17 mai, avec la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Pourquoi on le fait plutôt nous? Tout simplement parce qu'on veut être certain de la disponibilité des acteurs, des associations, des mouvements militants, etc., qui, à partir du mois de mai, sont sursollicités, évidemment, par l'ensemble des communes ou des marches qui se font, parce qu'il y a de plus en plus de marches des fiertés qui se font. Alors bien sûr, historiquement, il y avait celle de Lille, mais maintenant, il y a Calais, il y a Arras, je crois qu'il y avait Valenciennes aussi l'année dernière. Enfin, il y en a de plus en plus. Et alors évidemment, le petit Pousset Fachtuménil autour de ces grandes villes a du mal à prétendre attirer à lui toutes ces associations dans un calendrier un peu concurrentiel. Donc on ruse et on fait les choses un peu avant. Donc c'est la raison pour laquelle ça se passe en avril jusque tout début mai. Et donc c'est bouclé. Alors tout simplement, dans ce contexte-là, effectivement, c'est les élections dans quelques jours. Tout ce qui est bouclé, arrêté, décidé, et engagé aussi financièrement, ça se fera, quoi qu'il se passe dans les urnes les deux dimanches qui viennent. L'équipe qui sortira appliquera ce qui a déjà été acté, décidé. Pour le reste, les autres causes sont traditionnellement décidées justement en mars, avril, mai, pour l'automne. Hein, en général, ça se situe de septembre à décembre, et donc c'est 6 mois avant qu'on commence à travailler un peu les choses. Donc pour l'instant, rien n'est décidé. Ça viendra dans les mois qui suivent. En tout cas, si c'est la majorité actuelle qui ressort du suffrage des habitants, tout ce qui a été fait jusqu'ici continuera. Parce que le principe, hein, c'est que quand on met une cause en place, on la sanctuarise. C'est-à-dire que là, on est à la 5e édition des Fiertés, on va être à la 4e édition de la lutte contre la grossophobie, la 3e sur la santé mentale, etc. etc. Le principe, c'est on fait un gros truc la première année, et puis on garde quelque chose les années suivantes, une petite conférence, une expo, quelque chose, voilà. Histoire qu'il y ait toujours, que ça reste pas un truc qu'on fait une année, puis après on range, on oublie, on est bien content. Non, on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose qui reste et que les habitants concernés se raccrochent au moins à un truc, chaque année.
Merci. Lors de la marche des fiertés, allez-vous vous associer à nouveau avec la ville de Ronchin ?
Oui. Oui, on a acté ça, effectivement. On a convenu d'un parcours commun. L'année dernière, on s'était retrouvés, il y avait un petit cortège qui partait de l'hôtel de ville de Ronchin et qui nous a rejoint à l'hôtel de ville de Fache. Cette fois-ci, on a décidé qu'on faisait vraiment un cortège commun avec un parcours. Nous avons quelques rues, et on est bien placé ici pour le savoir, quelques rues communes avec la ville de Ronchin. Donc on va traverser ces rues-là et on va relier comme ça les endroits stratégiques, nos deux mairies, la salle Jacques Brel où se fait le gros de l'événement du 25 avril. Les géants seront de sortie. Voilà, donc logiquement, ça devrait être pas mal. Et puis je pense que on convient maintenant que les élus concernés de Ronchin viendront nous voir pour nos événements, tout comme nous, on ira voir un peu ce qu'ils font chez eux.
Et comment pouvez-vous évaluer vos actions, que ce soit dans les différents domaines ? C'est difficile l'évaluation.
Oui, alors c'est difficile et c'est variable selon les causes, en fait. Le premier témoin de succès ou pas succès, c'est la fréquentation. Donc là où la première année, on commence avec une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, on se dit bon, ça y est, on a planté une petite graine. Puis quand on voit qu'on dépasse 100 ou 200 ou 300 personnes qui visitent des événements, on se dit bon, ça y est, ça commence à prendre, ça commence à intéresser. Pour reciter effectivement les fiertés, on a été sur certaines années avec plusieurs classes de collège qui venaient voir des expositions commentées, avec un retour par exemple de l'infirmière scolaire qui les accompagnait, puis qui nous disait voilà, bon là, moi je trouve qu'on a atteint notre objectif, qui est de sensibiliser, d'essayer de gommer un petit peu comme ça les poncifs qu'il peut y avoir chez les ados. Moi, j'ai en mémoire un événement qu'on avait programmé, je crois, la deuxième année. Moi, j'y croyais pas trop, pour être honnête. C'était l'intervention d'une psychiatre clinicienne. Alors, j'espère que je dis bien les choses, qui est intervenue sur la question de la transsexualité et de la question de genre. Un samedi matin à la médiathèque. Bon, je me suis dit, on est quand même à fâche. Je suis pas certain que ça motive non plus les foules. Mais écoutez, j'ai été, nous avons été, tous les porteurs de ça, surpris de voir arriver ce samedi matin-là une quinzaine de personnes, dont cinq personnes fachetuménilloises directement concernées par la question. À des degrés variables, et puis des parents qui avaient des tas de questions par rapport à leurs enfants qui étaient dans, ce moment-là. Et on s'est retrouvé dans un moment comme ça, de, à la fois de bienveillance et de, possibilité des gens de, s'ouvrir et, puis, et de dire bah, quel soulagement de pouvoir, ici dans ma ville, dans un cadre quand même protégé, aborder ce sujet qui est extrêmement personnel, évidemment. Et voilà, voilà. Et rien que ça, moi, j'imaginais pas qu'il allait y avoir cinq personnes concernées, plus les familles, qui viendraient là, à cet événement si précis. Et voilà. Et ça, c'est le... Je dirais que c'est ça qui résume la philosophie des causes municipales. C'est-à-dire, on lance quelque chose. On voit si ça marche. Des fois, il y a des ratés. Des fois, on fait une expo, il y a 3-4 personnes qui viennent. Bon, bah, c'est tout, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que la période n'est pas la bonne. Peut-être que l'horaire n'est pas le bon. Peut-être que le sujet, il n'a pas convenu. Et donc, on recalibre pour l'année d'après. Et puis, on essaye de voir ce qu'on peut faire d'un peu mieux, à quel endroit. Si c'est mieux de faire ça à Solacité, si c'est mieux de faire ça aux arcades, à la médiathèque, dans toutes les structures de la ville. Voilà.
Comment peut-on participer à tous ces événements que vous venez de nous décrire ?
Alors, très simplement. D'abord, il faut se sentir le droit de prendre part aux choses. Vous pouvez y participer soit à travers l'implication des partenaires des différentes causes, puisque toutes celles qu'on a citées là font intervenir des partenaires à la fois les structures de la ville, donc je les ai citées, hein, le CCAS, les arcades, la médiathèque, l'hôtel de ville avec les agents de l'hôtel de ville, la DJAE, donc la direction des sports, parfois l'OMPA, lorsque les, donc l'Office des personnes âgées, lorsque les sujets se prêtent à ça, parce que l'idée c'est que ce soit pour tout le monde, hein. Donc si c'est pour tout le monde, c'est par tout le monde. Donc les structures de la ville, les centres sociaux de la ville, la raison pour laquelle on discute ensemble ce matin. Donc les deux centres sociaux, depuis plusieurs années, prennent part à différents degrés, soit en accueillant un événement lorsque les locaux le permettent, soit en participant activement, en programmant quelque chose. Là, vous allez participer un petit peu plus, hein, le Chemin Rouge, participer un peu plus, notamment à la cause des fiertés, mais pas que. Donc, les habitants peuvent soit par ces structures ouvertes être un public, soit par les acteurs locaux, donc les centres sociaux ou les associations, prendre part activement à ces causes municipales et venir accueillir, présenter, etc. Les conseils citoyens sont aussi des bons vecteurs puisque l'info circule dans les conseils citoyens. Les habitants sont sollicités s'ils ont des propositions d'action ou s'ils connaissent par exemple des gens. Nous, on nous a proposé parfois des artistes. C'est comme ça, c'est via un conseil citoyen qu'on a rencontré une artiste qui dessinait, donc c'était dans le cadre de la lutte contre la grossophobie, qui dessinait des corps ronds D'une manière très jolie, très sensuelle, très décomplexée, voilà. Elle envoyait des dessins de femmes et d'hommes avec des rondeurs, avec de la cellulite, avec ci et ça, et c'était très joliment présenté. Et c'est un citoyen qui nous a parlé de cet artiste. Voilà, donc vous pouvez y participer comme ça, vous pouvez y participer en vous manifestant tout simplement auprès du CCAS, de l'élu en charge de ces questions-là. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la ville. Dès lors que vous avez l'information, vous pouvez vous signaler. Et je vous invite d'ailleurs à le faire.
Pour la marche des fiertés, y a-t-il une inscription sur Facebook ou sur les réseaux sociaux où les gens viennent de façon spontanée
Alors, pas pour la marche. Il y a d'ailleurs pour peu d'événements, il faut s'inscrire. Il y a vraiment que les endroits où on a un petit espace où il est intéressant de se signaler. Je pense notamment à la projection du documentaire de J'en suis, j'y reste. Je vais peut-être vous en parler juste après du programme, justement, parce que pour que ça soit bien concret. Donc, en général, on ne s'inscrit pas. Vous regardez le programme ou sur Facebook ou sur le site internet ou via les affiches et les petits tracts qu'on distribuera. Je pense qu'il y en aura d'ailleurs à disposition, notamment au centre social. Donc, pas besoin de s'inscrire. C'est comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Je peux peut-être en profiter à cet endroit-là pour vous dire un petit peu plus les événements de ce programme 2025. Alors là, je prends mon pense-bête sur mon téléphone parce que c'est tellement riche que je vais en oublier. Donc, le programme de cette année couvre le mois d'avril, du 6 avril jusqu'au 2 mai. Et on a un certain nombre d'acteurs récurrents hein, qui interviennent. Alors, je vais essayer de ne pas être long, pas être trop long. Il y a au Centre social des Cinq Bonniers du 6 au 24 avril une fresque collective et des interviews qui ont été faites donc, par le Centre social à l'endroit de ses usagers, des familles qui fréquentent, sur les questions de la différence et de la discrimination. Donc là, c'est plutôt des témoignages qui sont apportés. Le hangar, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un bar associatif, alors, qui est sur le trottoir de Lille, mais rue Ferrer, en face de l'ancien cinéma du Châtelet, et qui accueille tout un tas d'événements, des conférences, des petits concerts, des choses comme ça. Et le hangar nous a sollicité il y a 4 ans, je pense maintenant, hein, pour être un peu partenaire et puis nous dire, bah voilà, nous, on veut bien accueillir des événements proposés par la ville. Voilà, donc le hangar, il y a un spectacle qui s'appelle « Le chat qui est le chien ». Qui sera donné le 18 avril. C'est un théâtre de marionnettes pour enfants. Voilà. Et le chat qui est le chien, c'est la métaphore de celui qui est celui que son corps n'est pas. Hein. Un chat qui se croit chien ou inversement. Et donc, on file comme ça, très gentiment, avec des images qui sont adaptées à un jeune public. On va sur le terrain de « Ah, je peux être différent de mon voisin. Voilà, et puis c'est pas grave si je me comporte un peu différemment. Et si je me sens pas trop bien dans la carapace qu'on me met, je peux avoir le droit d'exprimer ma personnalité. » Voilà, c'est une manière assez poétique, je trouve, d'aborder le sujet. Entrée libre, mais il faut être adhérent de l'association pour une obole symbolique. Il y a une expo qui sera à Solacité du 20 au 30 avril, qui s'appelle Visible. C'est une expo photo faite dans le cadre du festival culturel LGBT. Donc c'est une expo sur la visibilité et la sensibilisation à la différence des corps qui interroge les normes sur le corps, notamment dans l'espace public. Du 20 avril au 2 mai, vous avez une autre exposition qui, elle, sera à la médiathèque. C'est une expo qui est conçue par la commission Legotech, et qui est dédiée à l'exploration de la notion de genre, elle aussi. Ensuite, vous avez la grosse journée du 25 avril, donc là, on est sur le point culminant du programme, hein, donc avec évidemment la Marche des Fiertés, donc qui démarrera salle Jacques Brel à 15h, retour à vers 17h. Il y a un village des Fiertés, un village associatif, salle Jacques Brel. Donc là, vous pouvez rencontrer tout un tas d'associations qui travaillent autour de cette question-là. Et je dis bien autour. Ce ne sont pas que des assos LGBT, il y a aussi des assos de prévention. Il y a notamment l'association Oxygène, que vous connaissez peut-être, qui est là, parce qu'elle a traité aussi de ce type de questions dans les publics qu'elle suit. Et vous en avez tout un tas d'autres. Il y a ensuite des moments musicaux très sympas, notamment la chanteuse Seul Tourbe, qui fait des chansons plutôt à destination des petits pour cette fois-là, des plus jeunes. Ensuite, on passe au un peu plus grand avec des performances de drag king et de drag queen, qui sont très beaucoup plus hautes en couleur, très sympa. Et puis après, on passe à la partie bal, avec trois DJ qui vont se succéder. Et puis ensuite, on finira tranquillement en bal pour tout le monde. J'insiste parce que dès le départ, on a conçu ça comme un moment inclusif. D'ailleurs, tout le programme est inclusif. Donc, tout le monde doit se sentir à l'aise dans ces événements et bienvenue. Et ensuite, nous avons, faut pas que je sois trop long, hein. Ensuite, nous avons aux arcades un atelier LGBT et handicap. Parce que j'ai oublié quand même de vous dire le principal, c'est que sur les fiertés, on essaye d'avoir un thème différent chaque année. Et cette année, on est sur les multidiscrimination ou polydiscrimination, c'est-à-dire, bah, par exemple, je suis gay et handicapé, en quoi il y a peut-être un effet d'accumulation ou d'aggravation de l'un ou de l'autre. Je suis lesbienne et musulmane, en quoi j'ai un problème peut-être dans l'épanouissement ou l'expression de ma différence avec ma religion. Alors, je dis musulmane comme ça aurait pu être gâteau ou que sais-je. Hein. Je suis africain et trans. En quoi j'ai un problème dans ma culture d'origine, dans éventuellement mon parcours en France. Et là, je fais le lien avec le fabuleux documentaire, si vous ne l'avez pas vu l'année dernière, allez-y cette année vraiment, qui sera accueilli au centre social le jeudi 30 avril, au centre social des 5 Bonniers, qui est une salle de projection. C'est le documentaire « J'en suis, j'y reste » de Marine Place, qui est une fabuleuse réalisatrice que j'aime beaucoup et que je salue, qui suit l'association « J'en suis, j'y reste », qui est une association spécialisée dans l'accompagnement des demandeurs d'asile qui ont fui leur pays pour cause de différence, alors soit d'orientation sexuelle, soit de genre, et qui sont menacés ou qui ont pu être tabassés dans leur pays, qui ont été rejetés par leur famille ou la société. Certains sont passibles de prison, voire de peine de mort, et sont demandeurs d'asile et sont donc accompagnés ici. Et donc ce documentaire retrace tout le travail d'accompagnement de cet asso. C'est un documentaire bouleversant, qui en dit beaucoup sur la nature humaine et qui, on ressort de là, on a envie de signer, de dire comment je fais pour venir chez vous et aider ces gens-là à retrouver une dignité, une famille, etc. etc. Voilà. Enfin, au hangar, le 13 mai, on a un apéro papote qui est à destination des parents d'enfants LGBT pour les aider justement à évoquer cette question-là et puis à poser toutes les questions qu'ils peuvent poser. On aura enfin, mais là c'est plus des événements internes, mais je les cite quand même, une sensibilisation au Collège Mermoz qui sera faite par l'association Prisma. Donc là aussi, hein, sensibilisation à je respecte mon prochain, je n'agresse pas mon prochain, etc. etc. Voilà, j'ai brossé de façon quasi exhaustive le programme de cette année.
pour rester plus terre à terre là, un jour venant au centre social, je me suis aperçue qu'il y avait une colonne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est de ça, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais un peu plus près, à la porte, juste à la porte. Je me dis, qu'est-ce que c'est de ça? Et c'était pour le recueil des mégots de cigarettes.
Ouais.
D'accord. Et là, au niveau évaluation, c'est facile. Savoir, et est-ce que cette action
a fonctionné
ou pas?
Oui. Alors, vous savez, la pédagogie, c'est la science de la répétition. Hein. Donc, quand on met quelque chose en place, je vous disais tout à l'heure, on plante une petite graine. Le comportement des gens ne change pas en un claquement de doigts. Il faut accompagner, essayer d'avoir un juste équilibre entre le coercitif et le préventif. Alors, parfois, c'est bien de... Quand je dis coercitif, l'amende.
La loi, oui.
L'amende, c'est aussi une manière pour nous de dire bon, si la prévention ça marche pas, vous ramassez pas la crotte du chien devant la police municipale qui passe, tant pis pour vous. Vous vous garez à cheval sur un trottoir, soit sur un passage piéton, soit parce que vous déposez même 30 secondes votre enfant à l'école. C'est pas autorisé. Vous savez que vous gênez la circulation. Vous savez que vous risquez qu'une maman avec une poussette ou qu'une personne en fauteuil, elle peut plus passer sur le trottoir. Bon, on fait de la prévention. Si ça marche pas, on essaye de... Voilà. Mais oui, ça fonctionne. Tout doucement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais c'est de l'apprentissage du bien vivre ensemble. Et ça, c'est surtout dans une... On est quand même dans une ville d'une taille correcte, hein, à Fâche. Donc, il y a une forme d'anonymat qui fait que on est décomplexé de jeter son mégot par là, ou de jeter son papier, etc. Ou de... dès le début du mandat, on a été confronté à des dépôts d'ordures sauvages. Surtout qu'il y a eu à de nombreuses reprises des problèmes de ramassage par la société de ramassage, hein. Et donc des gens qui jettent dans la rue. Voilà. Bon. On a été obligé, d'ailleurs, le maire lui-même, je me rappelle d'une photo où je le vois avec ses gants en train d'ouvrir une poubelle pour voir si on trouve une facture, un courrier à l'adresse de la personne qui a fait ça. Voilà. Et donc l'anonymat, c'est aussi la facilité de hop, je jette, je vais jeter mes gravats à l'entrée des périsos, et puis je fais ça la nuit, comme ça je suis sûr qu'on me verra pas. C'est ça notre ennemi, l'anonymat. Donc dans une grande ville, c'est compliqué, c'est plus long à changer que dans des petites villes où tout le monde sait qui est son voisin.
Là, au niveau du centre social, c'est vrai qu'il y avait plein de mégots. Hein, même dans la colonne est arrivée, il y a une colonne et puis il y a encore plein de mégots. Et c'est vrai que là, on peut remarquer qu'au fur et à mesure, il y en a beaucoup moins.
Avec le temps, voilà.
Côté santé mentale, évidemment qu'il y a un travail immense, mais qu'il y a quand même une part médicale. Et la crise du Covid a aggravé. Je pense aux jeunes, mais il y a l'isolement des personnes âgées aussi. C'est osé de voter ça en comité de quartier, un sujet dans lequel il faut travailler. C'est particulier, c'est personnel, et c'est multiple. C'est multiple. De la dépression à la schizophrénie, je ne vais pas entamer sur la drogue, mais c'est énorme, énorme et délicat, je trouve. Donc il faut être accompagné. Tout à l'heure, vous parliez d'une psychiatre clinicienne qui... apprécier sa conférence, son travail et l'impact que ça peut avoir dans un groupe, dans une population. Mais même s'il n'y a que 15 personnes, ces 15 personnes vont discuter dans leur famille, même plus avec des amis, parce que des sujets sont délicats, et des fois, ce n'est pas en famille. Et je me perds là. C'est-à-dire que, c'est osé. Voilà, tout à l'heure, c'est ce qui me venait en tête par rapport à d'autres sujets qui sont plus concrets.
Concret. Ou consensuel. Mmh. Ouais.
Oui.
Alors, oui, je vous rejoins et presque je vous remercie de le souligner. Oser des choses, c'est... alors, je dirais, c'est la chance la chance qu'on a quand on, bah, quand on a un mandat, c'est-à-dire que on a cette capacité de mettre en place une politique. Elle peut ne pas plaire. On ne peut pas plaire tout le temps, d'ailleurs. Et si, si toutes les personnes qui avaient eu un tant soit peu de pouvoir politique dans les mains n'avaient fait que des choses qui plaisaient aux gens, je ne suis pas sûr, par exemple, qu'on aurait aboli la peine de mort. Par exemple, lorsqu'elle a été abolie, ce n'était pas du tout du goût de la majorité de la population. Donc ça a été une forme de courage politique, quoi qu'on pense, de la question de la peine de mort. Mais je prends cet exemple-là. Sur la question de la santé mentale, l'idée, effectivement, c'est de dire on veut que nos habitants sachent qu'on peut parler de ça, un fâche-tuménil, que ce n'est pas tabou, et que ça concerne beaucoup de gens. Et vous avez fort bien fait de citer l'isolement des personnes âgées, parce que c'est aussi l'occasion pour nous de dire à fâche-tuménil, il y a un pôle autonomie et personnes âgées au centre social qui traite de ces questions-là. Et l'isolement des personnes âgées, c'est quelque chose presque invisible. C'est tellement... On se rend compte quand on suit, nous, des personnes. Parfois, en allant taper à leur porte, on se rend compte quand elles ouvrent la porte à quel point elles sont dans le désarroi, dans l'isolement, dans la désociabilisation. Et ces personnes-là n'osent pas, évidemment, pousser la porte du CCAS pour parler à quelqu'un. Et le simple fait de savoir qu'elles peuvent le faire, qu'elles sont autorisées à le faire, que ce n'est pas honteux, que ce n'est pas honteux d'avoir des pulsions suicidaires, que ce n'est pas honteux de développer un syndrome de Diogène parce qu'on est mal avec soi-même, parce qu'on est tout seul, parce qu'on est... Voilà, il n'y a rien de honteux. Et pour nous, il y a une vertu et une fierté à dire à nos habitants, vous avez un besoin, vous êtes dans une difficulté, vous vous sentez... Sentez-vous le droit de venir pousser la porte de la puissance publique dont l'objectif est de vous protéger.
Est-ce qu'il est possible pour un habitant de la ville de proposer des idées ou, malgré le nombre assez admiratif hein, des différents événements que vous nous proposez, est-ce que malgré tout il y a une participation possible des habitants de la ville de Fâche-Tuménil ?
Bien sûr. Bien sûr, vous
et
pouvez.
Par quel biais ?
Alors, vous pouvez soit via les conseils de citoyens, soit en envoyant directement un mail à l'adresse contact de la ville, tout simplement.
Alors, voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci Fabien Ponzalion Régnier pour votre participation et votre apport précis et précieux de toutes les informations que vous avez transmises dans ce podcast.
Merci pour votre accueil et votre intérêt.
À bientôt sur la web radio du Chemin Rouge. Au revoir.